Ouais, bonjour à tous. Jean-François de Toulouse, je travaille dans le BTP. Là, j'ai un collègue, Black, qui vient de se faire embarquer. Parce que, paraît-il, ses papiers n'étaient pas en règle quand il s'est fait embaucher dans l'entreprise il y a plus de 5 ans. Un mec nickel, nickel, toujours à l'heure, honnête, travailleur. Je suis sidéré. Jusqu'à maintenant, je voyais ça au journal de 20h. Là, ils m'ont soufflé. Il est parti avec les menottes. 5 ans que je le connais, nickel, il est parti avec les menottes. Voilà, courage.
Oui, salut Daniel. Alors écoute, je sais pas si t'étais Gare du Nord hier soir ou au Mali, mais avec un beau coup de filet là-dedans, on aurait pu ramener quelques-uns au pays, hein. Tu crois pas? Allez, salut.
Oui, bonjour, c'est François de Toulouse. C'est juste pour réfléchir par rapport aux événements de la Gare du Nord à Paris. Ce qui est très curieux, c'est que cette espèce d'émeute urbaine intervient juste au moment où Nicolas Sarkozy quitte son poste. Donc moi je sais pas, faut savoir à qui profite le crime, quoi. Donc une émeute, donc on attaque la police, donc vous voyez bien qu'on avait bien fait de réagir comme ça. Donc on va vous donner un peu plus de sécurité, un peu plus de bâton, puisque les braves gens ont peur de tous ces jeunes. À méditer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de provocation des RG là-dessus? C'est pas très bien, quoi. De toute façon, dans ce genre d'événement, on ne sait jamais comment ça commence, mais on voit bien quelles sont les réactions des journalistes derrière, quoi. Tout le monde s'engouffre là-dedans, sans discernement, sans enquête. On y va, à qui profite le crime? Moi, j'en ai rien. Tout le monde se pose la question. Salut à tous les auditeurs, et puis soyez vigilants, quoi.
Je suis passé devant la Gare du Nord en fin de journée. Il y avait beaucoup de police, une ambiance qui hésitait, tendue, incrédule. Manifestement, il se passait quelque chose. Il y a là un jeune arabe, 35 ans, il est appuyé contre une voiture, l'air un peu tendu lui aussi. À sa tête, j'ai l'impression qu'il sait ce qui se passe. Je lui demande. Il me raconte que des flics de la RATP ou de la SNCF, il sait pas bien, ont tabassé un jeune sans billet. Il est calme, mais il semble en colère. On échange de mots. Un jeune flic, 25 ans, s'approche et dit à l'arabe d'un air finaud « Je suis sûr que vous seriez incapable de montrer les papiers de la voiture. » L'autre répond « Bah oui, elle est pas à moi. » Très content de lui, le jeune flic lui dit « Bah alors, faut aller vous appuyer ailleurs, sur cette voiture. » L'arabe dit rien et il se déplace un peu plus loin. Je remarque alors qu'il boite. Il est unijambiste et il touche une prothèse. J'ai une bouffée de haine pour ce jeune con. Ils savent pas le mal qu'ils font avec ces brimades permanentes.
Des journées sportives pour François Baroin, récemment nommé au ministère de l'Intérieur. En effet, le jeune ministre s'est vu obligé de faire appel à une entreprise de déménagement afin de dégager son espace de travail, place Beauvau, envahi jusque dans ses couloirs de ce que son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, avait accumulé. Des bouteilles de champagne vides au portrait de Jacques Chirac transformé en jeu de fléchettes, on trouve de tout au ministère de l'Intérieur. Des stocks immenses de boîtes de calmants, une série impressionnante de nettoyeurs à haute pression, un atelier complet d'ébénistes ainsi que des centaines d'objets en bois, escaliers, placards, mais aussi des figurines grandeur nature de cow-boys texans ou de stars d'Hollywood. Sans parler de salles entières remplies de dispositifs d'écoute sophistiqués et même, c'est une bonne surprise, l'ordinateur personnel de la conseillère de Ségolène Royal qui avait été perdu. Monsieur Baroin a donc du pain sur la planche pour ce grand déménagement. Souhaitons-lui donc bonne chance, d'autant que reste encore à déplacer la collection de pipeaux de Monsieur Sarkozy.
Voilà, c'est Radio AMG. Vous avez compris, ça chauffe. Alors, il y a ceux qui plaisantent, et puis il y a les bouffées de haine quand même, hein, sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Va-t-on glisser sur la grande patinoire vers le thème de l'insécurité qui, lors des dernières présidentielles, avait rapporté à qui l'on sait. Attention, attention, on va voir ce qu'on va voir. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on continue notre voyage à travers la Chine Et là, on continue toujours dans cette province du Rhénan. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu ce mot, Rhénan. Eh bien, c'est une des provinces les plus peuplées de Chine, avec seulement 100 millions d'habitants. Et l'une des plus peuplées et l'une des plus pauvres. Or, il y a quelques années, au début des années 90, on pouvait voir un peu partout et entendre partout un slogan formidable qui était « Donner son sang est glorieux ». Ce n'était plus « sang est cher et glorieux », c'était « Donner son sang est glorieux ». Quoique, pour beaucoup de ceux qui ont donné leur sang à l'époque, il s'agissait bel et bien non pas de s'enrichir, mais de survivre. C'est une région très très pauvre. Ce qui s'est passé, c'est que par dizaines de milliers, par centaines de milliers, les habitants paysans, très très pauvres, ont donné, ou plutôt vendu leur sang, puisque le don du sang était indemnisé dans cette époque, et les conditions sanitaires étant très défectueuses, eh bien, cela a créé une gigantesque contamination par le VIH. Il a fallu des années et des combats difficiles et douteux pour que la contamination soit reconnue et que le commerce du sang soit interrompu en 1996. Tout récemment, ces semaines dernières, la province du Rhénan a reconnu 35 232 cas d'infection, mais selon une estimation scientifique fiable, ce serait 300 000 personnes qui seraient infectées, et souvent des associations avancent le chiffre d'un million de personnes contaminées de la façon la plus cynique qui soit, car évidemment ce n'est pas un accident, une bavure fatale, une calamité, c'est bel et bien un effet politique, des politiques menées dans ce pays depuis déjà pas mal de temps. Alors cette histoire, vous la connaissez sans doute, elle a fait le tour du monde. Celle qui a révélé le scandale, c'est le docteur Yao Jie, j'espère que je prononce à peu près correctement et je m'en excuse si c'est pas le cas. Mais lorsque nous sommes arrivés dans cette région, on a appris qu'elle était en résidence surveillée, on a appris que ce dont on se doutait, que les journalistes n'étaient pas du tout les bienvenus, pas plus que les chercheurs. Et on a appris aussi, et ce sera la chute de cette histoire, que ce scandale, que cette monstruosité continue, sans doute pas dans cet état dans cette province du Rhénan, mais dans d'autres états de la Chine. C'est notre thème d'aujourd'hui, le sang de la Chine. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse Jisui au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Je suis prof au lycée Gabriel Fauré dans le 13e à Paris. Je fais cours tous les jours à mes élèves en me demandant si demain deux d'entre eux seront toujours là, le lendemain. Ils sont sous le coup d'une demande d'expulsion. Donc le discours sur l'éducation de Robien, vous savez, le pote de Bérou, ça me fait un peu rire jaune. Aujourd'hui en France, on arrête des gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont fait. La police applique les consignes sans se poser de questions. On habitue les gens à voir des personnes se faire arrêter parce qu'ils n'ont pas un bout de papier sur eux. Et demain, on arrêtera qui et pourquoi? Rappelons-nous du poème, quand ils sont venus chercher des communistes, je n'ai rien fait car je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien fait car je ne suis pas juif. Vous vous rappelez de la fin? Quand ils sont venus chercher, j'ai rien pu faire, j'étais tout seul. Alors, il faut se mobiliser maintenant, et sans attendre les élections. Donc, moi je vous fixe un rendez-vous pour ceux qui veulent défendre des élèves sans papier. Rendez-vous à 13h30 devant le lycée Gabriel Fauré, dans le 13e arrondissement de Paris, pour accompagner trois élèves qui passent au tribunal pour leur recours. Voilà. Merci, et à jeudi.
Bonjour aux auditeurs de Là-bas si j'y suis. Je donne un petit message en particulier aux auditeurs de Nantes et du pays de Ré, pour la rentrée au repère de Là-bas si j'y suis de Loire-Atlantique, qui se situe à Saint-Hilaire de Chaléon et qui s'appelle la Motte au Cochon. Voilà, donc rendez-vous à 17h ce dimanche à Saint-Hilaire de Chaléon. Merci.
8h30 pour ce 28 mars, je n'en crois pas mes oreilles, et voilà, un nouveau cap a été franchi dans le cynisme publicitaire tel que France Inter nous en rebat les oreilles chaque jour à longueur de publicité plus cynique les unes que les autres. Je fais bien sûr allusion à la campagne CNP Assurance. Je n'en crois pas mes oreilles encore une fois. qui communique directement sur les dividendes, 2,30€ par action, reversés aux actionnaires de la grande société qui a augmenté ses profits de 3%, nous dit-on, etc., etc. C'est-à-dire qu'on s'adresse sur une chaîne de radio publique à un public d'actionnaires avec tout le cynisme, etc. C'est proprement sidérant. J'ai des bras m'en tombent le matin comme ça c'est violent. C'est violent, on va au travail et on se prend ça dans la tête et ça vous coupe les ailes pour aller travailler le matin. Ça vous, voilà. Allez, salut à tous, bon courage, Pascal Dumont, ciao.
Bonjour, c'est Frédéric Deville. Je vous appelle pour rappeler que la première du repère des AMG de Bruxelles se tiendra ce mardi 27 mars à 20h30 à la Maison du Pâques, 71 rue Middelbourg à Watermal-Boisfort, une des 19 communes de Bruxelles. Nous échangerons nos opinions et comme disait Marx, pas Karl, Groucho, si vous n'aimez pas mes opinions, j'en ai d'autres.
Bonjour Daniel, ici Cédric de Strasbourg. Mais je voulais juste vous demander ce que vous pensiez du fait que à Strasbourg, ville du Parlement européen, il n'y avait pas de fête ce week-end pour les 50 ans de l'Europe. C'est quand même bizarre, hein? À très bientôt.
Combien de fois tu as vendu ton sang?
Plus de 1000 fois.
1000 fois tu as vendu ton sang?
La misère, c'est que nous sommes tous séropositifs. Parce qu'à l'époque, on disait « Vendre son sang, c'est glorieux. »
C'est-à-dire que l'hôpital vous incitait à venir vendre votre sang?
Oui. Slogan très connu de Deng Xiaoping, peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, si t'arrives à attraper les rats, c'est un bon chat.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil, le sang de la Chine.
Flight number 2, arriving from...
Alors là, c'est assez chaud quand même ce soir. On en est à 1-2 taxis et on est dans un troisième véhicule et on est avec des militants. C'est sur cette histoire fameuse, pourtant internationalement connue et réputée. Horriblement réputée, celle de l'histoire de sang contaminé. Contamination de sang, non pas due ni au sexe, ni à la drogue, mais à des transfusions sanguines qui avaient été organisées par les autorités locales, qui payaient les paysans pour acheter leur sang. Et ces opérations ont contaminé des dizaines de milliers de paysans. L'affaire a fait très grand bruit, mais pourtant aujourd'hui, pour arriver à rencontrer des gens atteints, des paysans atteints par le sida, c'est toute une opération, il faut se planquer, il faut venir de nuit, et voilà où on en est.
Donc il faut attendre qu'ils me disent de sortir de la voiture, et ainsi de suite.
Un téléphone pour nous dire de nous arrêter. Résultat, maintenant on est en race campagne, dans une voiture, tout feu éteint. C'est pas rassurant.
Non, mais même si nous, on risque pas grand chose, c'est surtout les personnes qui nous ont amenés ici qui prennent de gros risques.
Et ceux qui vont témoigner.
Et ceux qui vont témoigner, ouais.
Allez, tiens, lui.
C'est bon.
Ah. Ils ont quand même un calendrier de AIDS. D'ailleurs, ils ont des petites images. Je pense que c'est comme ça, pas mal dans les maisons du coin. Il y a un petit hôtel des ancêtres, un Bouddha. Ah. Là, c'est l'année du cochon. Il y a un petit calendrier, des petits posters collés au mur. Puis il y a un petit chien. Tu sais comment on appelle ces chiens en France ? Les Pékinois.
Mmh. Oui, c'est vrai.
C'est un
vrai
genre de chien qu'on appelle les Pékinois.
Nous aussi.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Je suis séropositif.
Comment tu l'as appris ?
J'ai
été contaminée par ma femme.
Comment ta femme elle-même avait été contaminée ?
Par la transfusion sanguine.
Elle
a vendu son sang une fois.
Une
station de sang dans la ville de Shanghai. Donc quand elle était enceinte, avant l'accouchement, elle a eu le résultat, elle est séropositive.
Ah. Et donc le bébé aussi est séropositif.
Ah, t'es.
Oui.
Ah.
Ouais, sans toi. Elle a eu un sang,
il a déjà 3 ans, cet enfant.
C'est votre seul enfant?
Ok, sûr d'ailleurs.
Donc tous les trois, la maman, toi, le mari, et l'enfant, de 3 ans, tous les trois séropositifs.
Oui, je t'ai.
Elle veut bien parler avec nous, la maman, la dame. Qu'elle vienne parler. Ça va? Vous avez l'air un peu... Vous avez froid? Alors, on est en train d'essayer de comprendre ce qui vous est arrivé.
La misère, c'est que nous sommes tous séropositifs.
C'est vous qui avez été contaminé la première dans la famille.
J'ai vendu mon sang une seule fois, mais moitié piqûre.
Pourquoi vous avez vendu votre sang? Pour l'argent?
Parce qu'on était pauvres à l'époque.
Et maintenant, vous êtes plus pauvre?
On est toujours pauvres, encore plus pauvres qu'avant, parce que maintenant, nous sommes tous séropositifs.
C'était payé combien?
50 yuan pour un prélèvement.
50 yuan, c'est-à-dire 5 euros.
Je suis allée avec d'autres personnes du village, on vit ensemble, parce que à l'époque nous étions tous très pauvres.
C'est ça. Et donc tous les gens du village, et puis des villages alentours, allaient vendre leur sang.
Oui, c'est vrai. Parce que tout le village.
Et il y a beaucoup de malades aujourd'hui dans le village?
Il y a presque 600 séropositifs dans ce village.
Sur combien d'habitants?
Sur 3000 habitants.
600 personnes qui sont séropositifs.
Il y a déjà plus de 300 morts dans ce village.
Du sida?
Oui.
Et ça, le gouvernement ne veut pas que ça se sache?
Oui.
Routira, alors, depuis le 17 juillet l'année dernière, tu étais en résidence surveillée. Résidence surveillée, c'est-à-dire que tu étais chez toi et tu ne pouvais bouger qu'avec l'autorisation de la police.
C'est-à-dire, je ne peux pas sortir de chez moi. Il y a 4 flics juste devant ma porte.
Ils sont plus forts que
Donc c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Avant c'était plus violent et maintenant il reste devant chez moi comme une sorte de mur.
另外他们达到的目的就是说也不让外界有人来访，不让他们见到我。
Leur but c'est d'empêcher les gens d'aller chez moi, de venir chez moi.
Là par exemple pour venir ici, tu crois que les flics t'ont surveillé, tu vois qu'ils te suivent？
我其实跟警察打交道很久了，所以说他们的监视一般我是可以看得出来的，但我今天的确没有感觉他们在我后面。
Moi j'ai l'habitude de travailler avec des flics, s'ils me surveillent, s'ils me poursuivent derrière, je peux le sentir, mais aujourd'hui j'ai pas ce sentiment.
Tes téléphones sont, ton téléphone est sur écoute, ton internet est surveillé, tes mails sont surveillés.
Ça se passe le bal.
100%, c'est sûr.
Tu donnes du travail à des gens?
是的，是的，我觉得我有朋友跟我讲，我创造了很多就业机会。
Oui, un ami m'a dit que j'ai créé beaucoup de postes pour les gens.
Bah oui, c'est bien. Toi aussi, tu crées des emplois.
Bah, c'est des fonctionnaires. Tiens.
Il y a ceux qui chantaient.Exilés aux États-Unis, en Europe ou à Hong Kong, il y a ceux qui sont internés, qui sont arrêtés, qui font de la prison. Il y a ceux qui sont en résidence surveillée. Ce sont les dissidents chinois et Hu Jia fait partie de ces dissidents de l'intérieur. C'est-à-dire que, ben, vous comprenez, il est derrière ce mur.De surveillance avec des flics autour de lui, tout est surveillé, aussi bien ses, évidemment ses communications par internet ou ses mails, etc., ou son portable. Mais il se bat quand même, et il se bat contre quoi ? Bah contre la justice, pour les droits de l'homme, évidemment, mais plus spécialement sur la question du SIDA et sur cette question.Du sang contaminé dans le rénal. Pour lui, c'est pas seulement une affaire de droit de l'homme. C'est une affaire politique beaucoup plus importante et grave que ça. Oudia.
其实中国的就说血液方面的法律呢，并不禁止单采浆的这种就是采血方法。
La loi chinoise n'interdit pas la vente du sang. C'est légal.
本来人口是他的负担，但是这个时候呢，他把人就是人的血液当成一种资源来开始兴办血液制品产业。
Donc le gouvernement de la province de Henan a commencé à utiliser la ressource humaine pour faire de la fortune, c'est-à-dire tirer leur sang.
但是就是说河南采取的这种方式。是完全粗放型的，也就是说他们完全不顾及任何就说献血者的生命健康的安全问题。
Mais la vente du sang dans la province de Henan, c'est un peu exceptionnel. C'est-à-dire, le gouvernement s'en fiche complètement des conditions sanitaires de la santé des paysans qui vendent leur sang.
他们不仅仅没有这个 HIV 方面的检测，而且许多的血站连乙型肝炎就 HBV 啊，这个和丙型肝炎这些基本的检测都没有。
C'est dans ces stations de sang, on fait pas du tout les analyses de HIV, c'est-à-dire le virus du SIDA, et aussi d'autres maladies contagieuses, par exemple l'hépatite.
那些为了减低成本、谋取暴利的话，他们经常的重复的使用一些抽血的工具，而且呢，把一些就是几个人的血浆就血液混在一起，就是放在一个血液分离机里边去分离，这些情况才造成了这个交叉感染。
Pour baisser le budget, pour économiser de l'argent, les acheteurs de sang ils réutilisent les seringues plusieurs fois, et c'est pour ça beaucoup de paysans ont été contaminés le SIDA.
Qui organisait ces transfusions et cette vente du sang?
他应该说是河南省政府整体。
C'est le gouvernement de la province Henan.
当地的农民去参加有偿献血，首先是第一，是因为当地的政府组织了这种血站进行抽血。
D'abord, les paysans locaux qui ont d'aller pour donner leur sang, c'est parce que d'abord le gouvernement local a organisé les stations de sang.
当地地少人多，所以呢。农民普遍贫困， 而政府的苛捐杂税逐年递增。
Dans la province de Henan, il y a pas assez de terres pour cultiver, et au contraire, il y a trop de monde, il y a trop de paysans, donc c'est une région assez pauvre.
这种双面的挤压形成了一个市场，就是老百姓被迫要去参加这样一种，就是说有偿献血的过程。
Donc tout ça, ça a créé le marché du sang.Les paysans ils sont obligés de vendre leur sang.
从这两方面，其实老百姓只是生产财富的机器而已，就是对政府来讲，只是生产财富的机器而已。
Donc pour le gouvernement, les paysans ils sont des machines pour faire la fortune.
谁要过？谁要过？Je le répétais, ce scandale, cet énorme scandale du sang.Contaminé dans cette province de la Chine, du Henan a été dénoncé. Vous avez vu des reportages sans doute sur cette histoire. Eh bien, il est difficile, très difficile aujourd'hui, toujours aujourd'hui, pour des chercheurs, des journalistes, de rencontrer ceux qui sont contaminés tout simplement dans cette région.Pourquoi ? Parce que les autorités locales ne souhaitent pas du tout qu'on dévoile ce qui s'est produit là, ce qui se produit toujours là et qui, vous le verrez, continue de se produire malgré tout en Chine. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que dit notre ami Ouja, c'est que la Chine, derrière le miracle chinois, il y a une pauvreté formidable. Il faut rappeler quand même que si on nous montre toujours des villes formidables, champignons, avec des buildings, des lumières, etc., ce qui est vrai, mais 60% de la Chine reste...rural, c'est-à-dire 820 millions de personnes sont des paysans qui vivent dans des zones rurales et 70% de ces 820 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a fait récemment, en mars 2006, une enquête dans la région où nous sommes du Henan auprès de 1700 personnes atteintes du sida. Et bien sur ces 1700 personnes, 62% disaient ne manger de la viande que deux fois par an,Et la moitié de ces personnes affirmaient que leurs revenus familiaux étaient d'environ 500 yuan par an, c'est-à-dire 50 euros par an. Alors évidemment, on comprend que lorsque les autorités sanitaires de cette province ont mis en place cette collecte de sang, payée à raison de 4,50 € la prise de sang, évidemment que les paysans du coin se sont précipités et certains faisant acceptant plusieurs prises de sang par jour, puisque le sang était réinjecté après prélèvement du plasma. Rencontre de nuit avec 1000 difficultés de ces paysans du Henan touchés, affectés par le sida.Mais qui est responsable de la contamination de ta femme ?
C'est à cause du gouvernement local. À l'époque, le sida, ça vient de transfusion sanguine et la vente du sang.
Est-ce que vous avez été indemnisé pour cette histoire ?
Oui, maintenant, 20 yuan par mois.
Ah, donc vous avez des indemnités. Elles sont ridiculement petites, mais vous avez quand même des indemnités.
Nous ne sommes pas indemnisés. C'est 20 yuan, on appelle ça l'aide, l'assistance.
Oui, d'accord, c'est pas une indemnisation. Oui, c'est vrai que c'est différent.
Qui va prendre la responsabilité?
Quel soin vous avez?
Nous avons le traitement antirétroviral. Nous avons trois espèces de médicaments.
Je ne sais pas ce que c'est que ces médicaments, mais il y en a trois.
C'est des génériques faits en Inde.
Les médicaments pour les enfants ne marchent pas très bien.
Depuis quand vous avez tous ces médicaments?
À partir du 2003.
Ah, seulement depuis 2003.
Oui.
Voilà pourquoi autant de personnes sont mortes.
Ah, ben, oui.
现在来说现在这个情况是得这个肝的酒作方面不到位，因为酒作的太少，一方面的这个资料还不够完善。Aujourd'hui,
le gros problème concernant le sida, c'est que les soins destinés aux malades est loin d'être suffisant.
Et toi maintenant, tu as décidé de te battre pour demander la justice pour toi et pour ceux qui sont atteints de séropositivité.
对，曾经这个权利怎么去争取的？你说有找谁呢？只有找记者来，这也是弘扬出去才能对的，才政府才能负责。
Oui, mais comment? À qui s'adresser? Donc on s'adresse aux journalistes. Comme ça, petit à petit, avec la pression mais des médias, le gouvernement peut-être il va nous rendre la justice.
Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui c'est si difficile de parler avec vous. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi est-ce que tout le monde a peur?
On a peur parce que aujourd'hui nous sommes malades. Et on a peur que si on parle avec des journalistes étrangers, le gouvernement ne nous distribue plus les médicaments.
有好多记者过来，有的政府他们都不让他们过来嘛，都是一般。你看现在有的记者过来，政府一听说，就是到这追他们，有的撵，到处找啊。
Le gouvernement embête les journalistes. Ils envoient des gens pour les chercher partout.
C'est qui les gens qu'ils envoient pour les chercher partout?
派那警察嘛，有的是派尔佛的人。
Ils envoient les flics.
Qui essayent de faire peur, qui sont là pour faire peur et pour intimider les journalistes.
Oui.
<音>哎，我们要是说出去吧，不敢再说。要是像我们这村里话，我在一家困难太难的起来，压力太大。你要是一般嚷嚷出去话，一般有些我们这一点都得意，话一般影响不，影响不好，你知道吧？
Notre vie est tellement dure, tellement difficile. Nous avons de telles répressions. Parler avec des journalistes, c'est une mauvaise chose.
Quand vous dites qu'il y a une répression, c'est quoi la répression contre vous?
La répression, ça veut dire, ici, dans ce petit quartier, nous sommes la seule famille qui est séropositive. Donc, quand mon enfant, quand il sort de la maison, les autres enfants ne veulent pas le toucher, ne veulent pas jouer avec lui.
D'accord. Il y a le petit aussi. Personne ne veut vous toucher. Vous êtes des pestiférés.
Nous sommes méprisés. Oui, parce que dans notre famille, toute la famille est séropositive. Donc, si nous dit, c'est une famille, il y a beaucoup de malades, on peut pas le toucher. Elle va s'occuper de son enfant.
想起月下，我想起花间，多少的往事留在我心田。一半是心酸，一半是甜蜜，一年又一年，长叫我留恋。
我想起月下，我想起花前，多少的往事留在我心田，一半是心酸，一半是甜蜜，一年又一年，常叫我留恋。
Comment tu t'appelles ?
C'est Jiang Rongjun.
Je m'appelle Jiang Rongjun.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Non, mais c'est ma méthode de l'orbaïsien.
Je fais rien. Je suis un chinois ordinaire.
Ah, t'es nommé ?
Paysan.
Et tu es né ici, dans le village ?
Rien.
Mm-hmm, ouais.
Dans quelles conditions t'as été contaminé ?
Tu sais, tu as.
J'ai vendu mon sang.
Comment ça se passait, ces ventes de sang ? À qui tu l'as vendu, ton sang ?
À
l'hôpital.
C'est-à-dire que l'hôpital vous incitait à venir vendre votre sang ?
Oui. Parce qu'à l'époque, on disait « Vendre son sang, c'est glorieux ».
C'est ce qu'on disait, il y avait des slogans comme ça qui circulaient.
On nous a donné tous une petite carte rouge avec ce slogan.
Vendre son sang est glorieux. Ça, c'était en quelle année, tu dis ?
91, 92, 93,
c'était les trois années les plus graves. Nous sommes trois frères. Maintenant, il y a seulement moi qui a survécu, qui est encore vivant aujourd'hui.
Tes frères sont morts du sida ?
Mon frère, ma belle-sœur, sont tous morts. Ah, il reste que ma grande belle-sœur. Et la deuxième est déjà morte.
Ils sont morts quand ?
Mon frère aîné est mort en 2003. À peu près. Est mort en
2002.
Et ma deuxième belle-sœur est mort en 97.
Ils avaient quel âge ?
30 ans.
Une trentaine d'années.
Combien de fois tu as vendu ton sang ?
Plus de 1000 fois.
1000 fois tu as vendu ton sang ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il enlève sa veste ? Il veut montrer son bras.
Ici.
Et là, il montre l'endroit où on faisait les prises de sang. C'était devenu ton métier. Donneur de sang professionnel. Vendeur de sang professionnel.
Parce qu'à l'époque, on était très pauvres, donc c'était obligé.
Combien tu vendais ton sang à chaque fois, à chaque prise ?
50 yuan.
50 yuan, c'est-à-dire 5 euros. Et ça, c'était devenu ton revenu. C'était comme un salaire.
Oui.
Et tu nourrissais ta famille avec ça ?
Oui, c'est ça.
Mais où il allait, ce sang ? Qu'est-ce qu'on faisait de ton sang ?
Ça, j'en sais rien. Après le sang, je suis sur son kin, on m'a donné de l'argent, après je pars. C'est toi.
Quand est-ce que tu as appris que tu étais contaminé ?
À l'année, il y
en
a.
En 2000.
En 2000, 8 ans plus tard.
Oui, 8 ans plus tard.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez su que vous étiez contaminé ? Est-ce que vous avez eu des indemnités ?
Non, pas du tout. Seulement, chaque année, avant Nouvel An chinois, on nous donne de la farine, du riz, de l'huile.
Qui est responsable de ça ?
Non, c'est ça.
搁到我们来就说，以前呢，我们省的一个李长春，他们是叫李长春，跟李长春来负责。李长春呢？
Nous sommes le peuple populaire. On peut pas le savoir, mais d'après moi, c'est Li Changchun. Li Changchun, c'est le chef de la province de l'époque. C'est lui qui a dit, c'est la vendre son sang, c'est glorieux. C'est lui qui a incité les paysans.
Sous les rayons du soleil couchant, la plaine du Rhénan est rouge, rouge comme le sang. Ce sang que vendent les habitants du village pour connaître une vie meilleure. Mais quelques années plus tard, atteint de la fièvre, ils se flétrissent et quittent ce monde, emportés par le vent d'automne comme des feuilles mortes. Seul le fils du vieux Ding, qui a bâti sa fortune sur la collecte du sang, continue de s'enrichir en vendant des cercueils et en organisant des mariages dans l'au-delà pour unir ceux que la mort a séparés. C'est le thème du roman de Yan Liangke, Le rêve du village des dingues, des dingues. Et qui, vous avez compris que c'est un roman qui prend pour thème ce dont nous parlons. L'auteur est né, lui, dans cette région. Eh bien, ce livre est interdit en Chine. Eh oui, son livre est interdit. C'est un roman, mais évidemment, les Chinois risqueraient de comprendre ce qu'il veut dire. Cependant, depuis 2003, la contamination a été révélée en 96. Depuis 2003, on vient de l'entendre, les autorités ont commencé à distribuer gratuitement des traitements contre le VIH. Et fin 2006, toujours selon ces autorités, près de 30 000 personnes dans cette région recevaient gratuitement ce traitement. Cette région, c'est 380 villages. Les autorités affirment qu'il s'agit de 38 villages qui sont concernés, mais d'autres calculs fiables indique que c'est 380 villages, et si 30 000 sont gratuitement traités, aujourd'hui, je rappelle que les chiffres les plus fiables tournent autour de 300 000 personnes contaminées. Alors, les autorités, évidemment, lorsqu'elles acceptent de répondre, ce qui est assez rare, aux chercheurs, aux journalistes, aux médecins, etc., prétendent évidemment faire le nécessaire, mais on peut éprouver quelques doutes lorsque l'on sait l'état de la corruption en Chine, corruption qui gangrène tous les rouages du pouvoir, du plus haut jusqu'au plus bas, et lorsque, ben, comme c'est le cas là, on se heurte à l'opacité d'un système peu enclin à donner des informations fiables et peu enclin à aider les journalistes qui essaient de comprendre et qui essaient de faire savoir. Évidemment, la déploration, la compassion, c'est bien, mais ça ne suffirait pas. Et c'est pas ce que souhaitent, en tout cas, ni les paysans du coin, ni les gens affectés, ni ceux qui militent, surtout, évidemment, les dissidents de l'intérieur, qui sont les plus exposés. Cette contamination, ce scandale, n'est pas un fléau, une affaire malheureuse de transmission par le sexe, la drogue, etc. C'est le fruit, le résultat de la course effrénée au profit dans ce pays. Course effrénée au profit par tous les moyens. Tous les moyens sont bons, peu importe que le chat soit noir ou blanc, l'important c'est qu'il attrape les souris. C'est donc le résultat qui compte, et le résultat, c'est le profit. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contaminés dans le village ici?
Randoa.
Oui, beaucoup.
Combien? Tu sais le nombre?
Au moins 400.
400 personnes sont contaminées?
Et les habitants, ils sont 800. Donc il y a au moins 400 de séropositifs. Ça veut dire la moitié.
50% des gens du village sont séropositifs.
Oui.
Combien de personnes sont mortes dans le village?
Plus de 300.
Non, c'est从1997年来到这几年来，十几百一年死过几十个的，这个很小的庄子，村子。
à partir de 93, des dizaines de morts chaque année.
一年死的最多的死过三十多，这个小村子没有多大，这个村子。
是一个组。
L'année le plus grave, il y a eu plus de 30 morts.
30 morts dans l'année? C'était quelle année?
好像2002年都死了很多，那现在是高什么高峰期。
En 2002, c'est l'année du sommet.
Alors, toi, tu es militant dans cette affaire.
因为我们做这个事情做得比较早，就是艾滋病初开始爆发的时候，就一直就是开始呼吁啊，开始呐喊呐、啊，一直到现在。
J'ai commencé à travailler dessus très tôt, il y a plusieurs années.
那我们家人也有感染呐、啊，我爱人也是感染者。
Parce que ma femme, elle est aussi séropositive.
嗯哼。Toi, tu fais quoi dans la vie?
我以前做生意。
Avant, j'étais un marchand. J'ai fait du commerce.
Et maintenant?
现在全力以赴的就做艾滋这个。
Maintenant, j'ai consacré toute ma vie pour le sida.
Tu passes ta vie à ça?
对。
Maintenant, t'es un militant pour défendre tes compatriotes.
对，已经十年了嘛。
Ça fait 10 ans.
Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu en quelques mots l'affaire? Qu'est-ce qui s'est passé?
啊，那是这样的，中国的改革开放，中国后来的就是说繁荣发展，其实是建立在就是说很多就是说河，尤其是河南，建立在这个河南的这些人的累累白骨上建立起来的。
L'économie, le miracle économique en Chine a été fondé sur les squelettes.Des habitants de Hunan.
那么一个国家的发展仅仅是看的那个什么 GDP 的增长吗？农民有了改善，他彻底的是发展了。
On peut pas regarder que le développement, le chiffre de PNB d'un pays.
我个人感觉，就是说这种发展，这种繁荣，其实是建立在狂奔暴敛上。
D'après moi, le miracle économique est fondé sur la violence.
就是说，尤其是上一任的政府。
La génération des dirigeants précédents.
啊，对老百姓的攀薄是很厉害的。
Ils ont énormément volé chez les paysans.
中国有九亿农民。
Nous avons 900 millions de paysans en Chine.
当我们填不饱肚皮的时候，我们没有路可走的时候，就是靠出卖身体的血液。
Quand les paysans n'arrivent pas à manger à sa faim, on peut rien faire. On peut que vendre son sang.
那后来十年以后，就把我们赶上绝路了。
Donc, dans 10 ans, c'est la route sans issue.
我们现在得到的资助是每个人每天是四毛钱。
Aujourd'hui, l'aide qu'on a reçue du gouvernement, c'est 40 centimes par jour.
每个月是12块钱。
12 yuan chaque mois.
而每个感染者呢，就是并没有，每家的感染者并没有得到改善。
Mais les conditions des malades, des victimes, n'ont jamais été améliorées.
这是一个大实话。
C'est la vérité.
Mais qu'est-ce que tu risques, toi, personnellement, en parlant comme ça?
我觉得就是说人命关天，就是我讲的这些东西都是真就是正儿八经的现实正在发生的东西，所以说我没把风险考虑得太重。
J'ai pas pensé au risque, parce que tout ce que j'ai dit et je suis en train de dire, ça concerne la vie humaine. C'est la réalité.
这对于我们来说是一个很大的悲剧。
是一个 tragédie.
嗯。Alors, courageux, hein, courageux, évidemment, ces personnes contaminées, ces paysans contaminés qui témoignent, courageux, ces militants de l'intérieur qui sont en permanence harcelés par la police et aussi par des hommes de main. C'est une technique, hein, en Chine, c'est pas forcément la police qui fait le sale boulot. Ça peut être des hommes de main, vous vous retrouvez, on vous éclate la tête dans un coin et puis tant mieux si vous survivez. Donc c'est quelque chose qui est très, très fréquent. Beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, et quelqu'un comme Oudia, qu'on retrouve à l'instant, ce dissident régulièrement assigné à résidence, en sait quelque chose, et il sait surtout quelque chose, et pas mal de choses, et sans doute trop de choses du sujet dont nous parlons. Oudia. Qui est responsable et...Est-ce que le ou les responsables ont été interrogés, arrêtés, poursuivis?
中国 就是这个官员呢，他是属于一种集体决策的性质，所以你要说从最大的环境下，谁让这么去肆无，就是说这样粗放的不顾人的生命健康去赚钱，那应该邓小平。
En Chine, à l'intérieur du gouvernement, les officiels, ils se protègent, ils décident des choses collectivement. Donc, c'est très difficile de demander à une partie des officiels de faire l'enquête des autres officiels.
Donc, de ce que tu dis, Moutia, c'est que pour l'instant, personne n'a été arrêté.
说到具体直接负责的，我认为应该是现在中共政治局的常委李长春，因为那个年代他是河南省委书记。
Concrètement, le responsable, je pense, c'est Li Changchun. Aujourd'hui, il est membre du bureau politique du Parti communiste. Et à l'époque, il était le chef de la province de Henan.
Quand tu parles comme ça, est-ce que tout le monde le sait? C'est quelque chose qu'on peut répéter dans les médias? Ou bien il y a que toi qui le dis et qui prends des risques en le disant?
应该说河南有不少的人了解这件事情，但是没有什么人在公开场合讲，因为李长春现在是中国的最高领导集群中的一个。
On peut dire à Henan, il y a pas mal de gens au courant de ça, mais personne n'en parle en public, parce que Li Changchun aujourd'hui, il est déjà un des dirigeants les plus importants de Chine.
我想他应该听说过中国中央宣传部，这个他是主管中国所有媒体的，而李长中共中央宣传部的部长叫刘云山，李长春是他的顶头上司。
Peut-être vous avez entendu parler du ministère de la propagande du Parti communiste, c'est 中共中央政治宣传部。Le chef 是谁？这个部长是
刘云山。
Le chef il s'appelle 刘云山 et Li Changchun c'est son supérieur direct.
所以在中国的报纸在媒体上绝不会出现有人去声讨李长春的声音。
Donc, dans la presse média chinois, il est impossible qu'il apparaisse un article contre Li Changchun.
Est-ce que tu avais entendu parler du sida avant d'être contaminé?
Non, pas tout ça.
Jamais. J'ai jamais entendu du sida.
我以前我就不知道我会感染艾滋病，因为我没献过血。就在2003年，我老婆化验之后，我都没在意。最后他们说给我化验一次，我才知道我得了这个艾滋病。那现在我没化验之前，我根本都没想到我会得这个病。因为那也没有，因为在这个病毒的线通过线些感染上了嘛。那当时那年我没有献过血嘛。
Avant, j'ai jamais entendu parler du SIDA. En 2003, on m'a fait une analyse de sang. C'est à partir de ce moment-là, je commence à connaître le mot SIDA. Avant, j'ai jamais pensé un jour je serais contaminé du SIDA.
下大了。
啊？
下雨了。
还在下雨啊？
嗯。
你不
认得
哦。
不是。
Merci à notre traductrice Yang Yang qui était particulièrement émue ce soir-là, cette nuit-là. Traduction de ces témoignages. Merci aussi à notre autre traducteur et ami Luc Richard. Merci à tous nos amis, à Oujia, à sa femme Zheng Jinyan. Et merci à tous. Un livre de Pierre Aski a été écrit sur, a été publié sur ce sujet chez Grasset en 2005, Le sang de la Chine. Du même auteur, signalons 5 ans en Chine, aux éditions Les Arènes. Et le roman que j'ai évoqué, c'est Le rêve du village des Ding de Yang Langke. Voilà. Et puis aussi un dictionnaire de la Chine contemporaine, très précieux chez Armand Collin. Autre chose, et ça c'est Charlotte Perry qui vous signale la cinquième édition du Festival international du film des droits de l'homme de Paris, qui débute aujourd'hui au cinéma Action Christine. Une quarantaine d'œuvres seront présentées au cours de la semaine. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org. www.radioimg.org. À la technique aujourd'hui, Nadège Antonini et Romain Lucquens. C'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission, montée par Raphaël Mouterne, assistée de Charlotte Perry. Christophe Imbert vous attend au coin du répondeur au 01 56 40 37 37.